Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Ça me fait plaisir de vous voir Jade, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des embouteillages dans les couloirs d'RTL en ce début du mois d'août. Hein.
Ah c'est sûr.
Bon, en même temps, nous, on ne se sentira jamais seul. Car on a tous nos amis de l'année qui sont là avec nous. Pour vous, on va encore vous offrir pendant une heure nos collecteurs d'On refait la télé.
Et aujourd'hui, c'est un peu une spéciale rétro, puisqu'on reviendra sur la création de Canal+, avec l'un de ses papas, et pas des moindres, Pierre Lescure. On voyagera dans le temps aussi, avec les chansons de Dany Briand. Mais on va commencer avec la spécialiste du vintage à la télé.
Oui, c'est Sophie Davant, qui a encore cartonné cette année avec son émission de vente d'objets anciens à faire conclure. Mmh. Au fait, pour finir, Jade, vous lui avez vendu pour combien les figurines en laiton à notre effigie, là ?
Très, très cher.
Genre, 10 balles ?
Ouais,
c'est ça.
Et une flûte.
C'est pas avec ça qu'on va partir en vacances.
Affaire conclue, on en avait évidemment parlé avec elle, mais aussi de ses nombreuses années de télé le matin sur France 2.
Archives ou archifaux ?
Sophie Davant, on va jouer avec votre mémoire, on va prétendre des choses à votre sujet. Si vous pensez que ça a vraiment existé, vous nous dites archives, sinon archifaux.
Alors Sophie Davant, pendant plus de 20 ans, vous avez animé tous les matins C'est au programme sur France 2. Si je vous dis que nous n'avons pas trouvé un seul bafouillis en 20 ans d'émission, vous me répondez archives ou archifaux ?
Archifaux.
Oh, il y en a si peu. Il y en a si peu.
Et là, je pense que c'est la seule trace que je laisserai dans ma carrière. Bon, des bafouillis ou des fous rires.
Écoutez, on a fait une petite compile.
Alors, les secrets des plantations des rosiers. Quels sont vos
rosiers?
On va vous parler d'un magasin où tout est gratuit. Ordinateur, téléviseur, déco, Marie Connerie, maroquinerie de luxe. Autant vous dire que nous sommes très gâtés cette semaine de Julien Courbet.
Courbet, oui.
Mais d'abord, quelques exercices justement pour mincir et pour vous alléger après ces fêtes. Spécial after feast. En français, après fête.
Vous voulez parler de quoi, Sophie, d'avoir des fêtes en anglais ou une pratique qui exige une bonne mutuelle?
Oui, bon. Ma préférée, c'est Marie Connerie.
Ah, c'est bien la Marie Connerie.
La tête de William, il a failli tomber de sa chaise. C'est trop drôle.
Et alors, les noms, c'est quoi ce problème avec les noms? Il semble que vous n'imprimiez pas les noms.
C'est la langue qui n'est pas encore tout à fait chauffée, donc qui dérape. Quoi.
Ça arrive encore aujourd'hui d'en faire conclure. Parfois, vous appelez un Jean-Paul Roger ou inversement.
Oui, c'est vrai que ça m'arrive. Le problème d'en faire conclure, c'est que je reçois quand même 26 personnes par jour. C'est beaucoup quand même. Donc, à chaque fois, j'essaie de m'imprégner. Enfin, je ne sais pas, je m'imprègne du parcours de la personne que je reçois, mais au bout de quelques heures de tournage, la mémoire fait faux bond parfois.
Allez, autre archive ou archifaux.
Pierre Palmade est déjà venu vous vendre un objet dans Affaires conclues. Archive ou archifaux ?
Archifaux.
Alors, c'est faux, mais figurez-vous qu'il en aurait très envie.
Il en rêve.
Alors là, il est le bienvenu.
Il vous a même lancé un appel sur Instagram.
Ah, je me souviens, c'était formidable.
Chère Sophie Davant, je voudrais vendre ce merveilleux objet qui s'appelle le vieux à la gourde. C'est une sculpture dans de la craie de Victor Hugo dans sa période alcoolique. Voilà, je le mets aux enchères à 8 500 €. Est-ce que je peux venir dans ton émission?
Alors Sophie, ok pour aider Pierre Palmade à vendre donc son vieux à la gourde.
Voilà, s'il peut trouver un autre objet, ça m'arrangerait quand même. Mais avec plaisir, on l'accueille avec plaisir.
Pour revenir aux humoristes, c'est vrai qu'il a été question à un moment donné que Laurent Baffy rejoigne l'équipe des acheteurs.
Ben, il en avait très envie, et moi aussi d'ailleurs. J'aurais trouvé ça formidable qu'il soit dans cette salle des ventes. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait.
La production a pris peur.
Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, mais moi j'avais milité pour, parce que bon, déjà c'est un vrai fou d'objets, Laurent, je crois qu'il passe ses nuits à acheter sur internet.
Oui, il ne dort pas, Laurent.
Non, il ne dort pas beaucoup. Et puis avec son humour et son sens de la répartie, je trouverais que ce serait un élément formidable. Mais
il y aurait peut-être eu beaucoup de montage, non?
Je ne sais pas, c'est peut-être pas tombé totalement à l'eau cette histoire, il faudrait que je revienne à la charge.
Un mot d'une autre forte tête qui, elle, a fait partie des commissaires priseurs d'affaires conclues. Pierre-Jean Chalençon, viré d'affaires conclues après de nombreux dérapages sur les réseaux sociaux. Vous parlez encore avec Pierre-Jean Chalençon, Sophie Davant.
Alors, il a fait partie des acheteurs. Hein. Il n'est pas encore commissaire-priseur, mais il était acheteur et collectionneur. Écoutez, moi, j'adore Pierre-Jean. Il nous manque. Il me manque. Après, moi, je ne suis pas responsable de ce qu'il a déclaré, de ses tweets ou de ses messages sur Instagram. Je crois que c'est sa seule responsabilité. Et je suis la première à le regretter.
quand il dit que vous ne l'avez pas assez défendu. Vous l'avez lu, ça, sans doute,
mais
dans la presse.
Comment défendre quelqu'un qui dit des horreurs, en l'occurrence, le message qu'il avait adressé à Aline Renaud, c'est indéfendable. Et voilà, je pense qu'il n'a pas mesuré. Moi, je ne peux pas valider ce genre de choses. Après qu'il me manque et que ce soit un élément important de l'émission qui ne soit plus là, je suis la première à le dire.
Quand il dit que l'audience a baissé depuis son départ, c'est réel ou c'est un fantasme ciné, Pierre Jean Chalençon?
Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études poussées, mais je pense que les audiences sont encore très agréables.
Vous pensez qu'il pourrait revenir, Pierre Jean Chalençon, un jour dans l'émission?
Cette décision ne m'appartient pas. Ça appartient au...
C'était vous qui décidiez, Sophie Davant.
Moi, vous savez, j'avais une amitié, vraiment. J'étais proche de Pierre-Jean et c'est pas faute d'avoir beaucoup discuté avec lui. Alors, je suis pas une donneuse de leçons, je me prends pas comme ça. Mais c'est vrai que dans les discussions que j'avais eues avec lui, je lui avais dit fais gaffe, quoi. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui apporte tellement, qui a une érudition dans son domaine. Et c'est dommage que toutes ces histoires-là aient occulté ce qu'il est vraiment, quoi. Voilà, c'est tout.
Donc, ce serait plutôt un oui.
Bah, oui, à condition qu'il ait compris ce qu'on pouvait lui reprocher. Et parfois, je me posais la question. Et puis moi, j'aime pas l'amertume et l'agressivité. Moi, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Si je l'ai pas défendu, c'est que, hélas, c'était indéfendable à l'époque. Maintenant, militer pour son retour, s'il a compris ce qu'on doit faire de sa notoriété ou ce qu'on doit ne pas faire, pourquoi pas? Moi, je serais la première ravie. Hein.
Allez, dernier test de mémoire, Sophie Davant.
Sophie Davant qui fait des allusions coquines sur des objets vendus dans Affaires conclues. Ça existe ou pas?
Mais non.
Bah, évidemment, mais archive.
Totalement archive. Mais oui, c'est vrai. Et parfois, c'est même... très très chaud. Hein.
Vous avez des petits tortillons qui sortent et donc il vous suffit de racler le tortillon pour...
Je vais racler le tortillon, moi, tu vas voir. Voilà, régulièrement. Donc ça fait une jolie culbute en salle des ventes. On va travailler,
on
Patricia.
On aime les culbutes.
Alors, ah, vous aimez les culbutes? Ah bah ça, on ne donne pas.
Pourquoi elle n'est pas en bon état?
Vous n'avez pas fait attention, il y a un manque important d'émail.
Alors,
combien pour la pipe? Moi, je vais vous dire 50 euros.
Ça fait pas cher pour une pipe, 50 euros. Pas cher payé.
En fait, vous avez un humour de mec, Sophie, d'abord.
Mais oui, j'ai toujours été une bonne copine des troisième mi-temps, moi. J'ai toujours une sorte de ligne de conduite, c'est de faire mon métier sérieusement sans me prendre au sérieux. Et quand le producteur d'Affaires conclues est venu me chercher, il m'a dit, je voudrais que tu fasses cette émission, ce que tu es. Donc, je savais... que pour correspondre à l'esprit français, il fallait y mettre un peu de sel, hein, et qu'il fallait... Les Allemands ont fait une émission beaucoup plus linéaire, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus docte, et moi j'avais envie d'y mettre autre chose sans pour autant occulter les infos. Voilà.
C'est très différent de la version allemande, effectivement, beaucoup moins moustachu déjà pour commencer.
C'est vrai.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Eric et Sucré.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Et on continue de réécouter les moments collecteurs de notre émission avec Sophie Davant, pendant laquelle on était revenu sur un moment culte de sa carrière, une blague qui avait bien failli lui coûter sa place, alors qu'elle était toute jeune présentatrice météo.
Ah oui, une histoire de hussard.
Oui.
Mais rien à voir avec moi. Hein.
Non.
Elle avait eu un gros coup de chaud, la pauvre Sophie. Elle et Roger Zabel nous en parlent juste après cet abécédaire, Sophie Davant. On avait choisi des lettres pour la présenter.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Et comme populaire, car vous le revendiquez, vous êtes une animatrice populaire, Sophie Davant. N'en déplaise à certains. Vous écrivez « Je suis fascinée et souvent écœurée de réaliser à quel point cette notion de popularité est méprisée par certaines élites, par des médias qui se prétendent branchés. » Vous êtes souvent sentie méprisée dans le milieu de la télé, Sophie?
Alors, moi, je ne dis pas ça par amertume, parce que j'ai du mal à me plaindre quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il m'arrive souvent de ne pas pouvoir participer à une émission ou de ne pas pouvoir faire une interview dans un magazine sous prétexte que je suis populaire.
Vraiment, c'est-à-dire qu'on ne vous invite pas parce que vous êtes trop populaire?
Oui, c'est ce qu'on dit aux attachés de presse qui s'occupent de moi.
Et quelle émission, par exemple?
Je ne citerai personne parce que je n'ai pas envie de faire du buzz ou de la polémique. Mais c'est vrai que ça me surprend parce que où est le problème, quoi? Au contraire, ça devrait être une grâce et une qualité que d'être apprécié par le plus grand nombre. nombre.
Mais vous, par le passé, vous avez eu à en souffrir, même votre parcours au sein de France Télévisions, vous avez eu le sentiment parfois que votre côté populaire vous a privé de certaines émissions.
Peut-être de certaines émissions, oui. C'est vrai que moi, on ne m'a pas déroulé un tapis rouge à France Télé, même si je n'ai pas eu à me plaindre de mon parcours, parce que j'ai quand même très vite accédé à la présentation d'un magazine. Mais bon, voilà, je n'ai pas eu très vite accès à des prime time, à des émissions un peu culturelles, etc.
Parce que trop populaire.
Peut-être. Voilà. Et en même temps, on est content de vous trouver quand il s'agit de faire de bonnes audiences l'après-midi, par exemple. Donc voilà, tout ça est assez compliqué. Je trouve que cette notion de popularité est trop souvent synonyme d'un côté ordinaire ou vulgaire ou grossier, alors qu'on peut être élégamment populaire.
On passe à une autre lettre pour un autre chapitre de ce livre.
Oui, la lettre C comme caractère, et vous en avez, Sophie, vous le revendiquez dans votre livre. Vous écrivez « Rien n'est plus ennuyeux qu'un animateur lisse, sans relief, dont on ne devine ni les humeurs, ni les goûts, ni les états d'âme, ni les préférences. »
Moi, j'aime pas ne pas savoir qui j'ai en face de moi. Et j'aime pas les animateurs ou les présentateurs qui trichent avec ce qu'ils sont vraiment. Voilà. Donc moi, je pense qu'on sait ce que je pense. On sait. Alors, il n'est pas question de montrer ses humeurs à l'antenne. Et on doit laisser ses soucis de côté quand on fait l'antenne. C'est ce que j'essaie de faire. Mais bon, malgré tout, je suis assez transparente, quoi.
C'est avoir une forme d'humanité, en fait, tout simplement.
Oui, bah, on voit bien si je suis touchée, si je suis émue, si j'ai un avis sur la personne qui est en face de moi. Voilà. Bon. Et puis bon, après, il y a un autre facteur, c'est que c'est vrai que je n'aime pas les gens lisses. J'aime bien quand il y a du relief, j'aime bien y mettre un peu d'humour. Donc il y a beaucoup de choses qui sont traduites et qui sont perçues au premier degré par certains téléspectateurs.
Parfois mal interprétées, c'est vrai. L'humour sur les réseaux sociaux, on dit ce qu'elle est méchante avec les candidats.
Voilà, alors que c'est que de l'humour et c'est toujours de la bienveillance et c'est juste les taquiner, parce que c'est ça aussi souvent qui les met en valeur, voilà, qui les fait réagir.
Mais est-ce que le second degré n'est pas un peu en voie de disparition à la télé?
Bah, c'est triste. Si c'est le cas, c'est triste, voilà. Et c'est vrai que les gens qui perçoivent ça au premier degré, ben je suis triste pour eux, quoi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire quand on dit que je suis indifférente ou distante, alors moi qui ai reçu tant de personnes anonymes qui leur ont donné la parole, ensuite. Il y a un montage. Moi, je suis debout toute la journée. Je reçois 26 personnes. Donc, il suffit que j'ai un geste, une mimique, un truc qui reste au montage ou qui soit mal monté, ce qui peut être le cas aussi, pour qu'on interprète. Voilà. Donc,
ça vous agace, ça vous blesse quand vous voyez ça?
Oui, ça me blesse parce que c'est faux. Quand on m'accuse d'être hautaine et indifférente, alors ça, c'est tellement faux que je dis ce que je pense, quoi.
Allez, on passe à une autre lettre de cette abécédaire, Sophie Davant.
Alors, Z comme Zabel, Roger Zabel, vous parlez de lui dans votre livre, vous évoquez les très bons moments passés avec lui dans Télématin, alors que vous débutiez à la météo. À l'époque, on s'amusait plus à la télé.
Alors, je ne sais pas si on peut généraliser, ça dépend ce que vous faites à la télé et sur quelle émission vous travaillez. Mais il me semble que plus le temps passe, plus on s'interdit des choses en télé. Voilà, moi je me souviens de cette époque quand même où Michel Pollack était en direct, où on fumait, où on buvait.
Et on se lançait les cendriers au visage.
On se lançait les cendriers, on se disputait et on osait de parler franchement. Aujourd'hui, on est bien plus. On a peur de tout, me semble-t-il.
Mais alors vous savez, Sophie, que le hasard fait bien les choses, car Roger Zabel est justement l'invité du nouvel épisode de mon podcast Radar, dans lequel je reçois des personnalités qui ont disparu des radars médiatiques. Et alors, évidemment, avec Roger Zabel, on a parlé de vous. Bah oui.
J'imagine.
On est revenu sur ce fameux épisode de la blague des hussards et des hulans qui avait bien failli vous coûter votre place.
Il y a une espèce de tradition quand j'arrivais en plateau. Je faisais toujours un peu le zouave. J'aimais bien d'ailleurs un peu déconner comme ça avant la prise d'antenne. Et je raconte une histoire qui est totalement idiote, dit de hussard et de hulan. Ça se termine par que l'un des deux dit « Moi, en tant qu'hussard, je ne t'en veux pas. » Et l'autre répond « En tant qu'hulan, je ne t'en veux pas non plus. » Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'elle va le répéter. Or, en fait, elle n'avait pas du tout compris la blague.
En tant qu'hussard, bonjour à tous. Alors Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette histoire?
Eh bien, bonjour. En tant qu'hulan, je vous dirais qu'il faudrait faire très beau encore aujourd'hui.
C'est vrai, Roger Zabel, sur le moment, quand Sophie Davant fait cette bourde, en allant jusqu'au bout de la vanne à l'antenne, vous vous cautionnez pas du tout?
Ah bah, moi je me dis, c'est pas vrai, elle ne dit pas ça.
Vous comprenez que ça va être un pataquès pas possible dès le moment où elle le dit?
Ah bah je pense qu'elle va se faire virer, que moi peut-être aussi, enfin je sais pas, mais enfin j'ai surtout peur pour elle. D'ailleurs, je souhaiterais ajouter à l'anecdote qu'il y avait à l'époque des copies qui se faisaient pour l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui garde toutes les archives de la télévision, et qu'il y avait un bureau à Antenne 2 qui était le bureau de l'INA, où on gardait la copie de l'émission du jour. Eh ben, cette copie à l'INA, à Antenne 2, elle a disparu. Et je sais qui l'a fait disparaître. C'est Sophie Davant. Et qui ne savait pas qu'il y avait d'autres copies qui se faisaient ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on a retrouvé les archives.
C'est vrai, Sophie Davant, vous avez fait disparaître cette copie ?
J'avais pas ce pouvoir-là. Moi, j'étais pigiste à l'époque, donc non.
Ouais, mais peut-être aller piquer sur le bureau,
mais
non ?
Mais bon, j'avais demandé, c'est vrai, à ce que ça circule pas trop.
Ça a bien marché.
Mmh. En remontant à la rédaction après l'émission. Alors d'abord, j'ai deux images. Hein. J'ai Roger qui devient vert, donc je le vois, puisqu'il est devant moi pendant que je parle. Je me dis, bon, mais j'ai dû dire une connerie. Mais j'étais vraiment pas réveillée ce matin-là. Et puis là, je vois arriver François Ponchelet, d'ailleurs, auquel je rends hommage, qui est parti, qui nous a quittés récemment, que j'aimais beaucoup, qui était rédacteur en chef de Télématin à l'époque. Oh, il arrivait chevelé en me disant « Mais elle est folle, cette fille, elle est folle !» Alors je dis « Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» J'ai quand même pas dit merde. Il me dit « Non, t'as juste dit en t'enculant. »
Oh. Parce que vous n'avez pas entendu le dire, quoi, en fait.
Ben, non, et puis c'est vrai que moi, j'étais pas réveillée quand il a sorti la blague. Et en fait, il me titillait. Moi, j'étais là depuis 3 semaines. Je venais d'arriver, moi.
Radar avec Roger Zabel, qu'on embrasse, qui vit un peu votre rêve, hein, finalement, Sophie, le rêve du pêcheur, parce que maintenant, il habite l'île aux Moines.
Quelle chance. Et je l'embrasse tendrement. Et il a quelle chance d'habiter sur l'île aux Moines.
Radar avec Roger Zabel, un podcast à retrouver dès maintenant sur l'appli et sur le site RTL.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Quand on vous dit qu'on a vraiment tout le monde dans Fait la télé, on a même eu cette année un président de la République, vous en souvenez forcément.
Ah bah, et comment, pour une fois, j'ai dit au vrai bonjour monsieur le président.
C'est vrai, pour une fois c'était pas
courant. Oui, voilà, c'est François Hollande qui avait accepté notre invitation pour rendre hommage à son ami Pierre Lescure. Une surprise pour lui.
Oui, t'es pas venu pour nous, ça c'est sûr.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Je vais faire quelque chose que je ne pensais jamais faire dans On refait la télé. Bonjour monsieur le président.
Bonjour Pierre.
Bonjour François.
Merci d'être avec nous. Je vous présente pas Pierre Lescure. Je crois que vous connaissez depuis quelques années.
Si, présentez-le moi.
Il a fait deux, trois trucs.
Avoir davantage sur lui.
Il a notamment créé Canal+. Vous le dites dans le documentaire François Hollande. Vous avez sans doute fait partie des premiers abonnés de Canal+. Vous, à la base, c'était pour le foot, hein?
Oui, c'était pas Pierre Lescure. D'ailleurs, on fait un abonnement de préférence ou avec un tarif abaissé. Rien, j'ai payé parmi les premiers. Il faut savoir que dans les premières semaines ou les premiers mois de la vie de Canal+, beaucoup avaient annoncé la mort de Canal+. Et beaucoup imaginaient que ça ne marcherait jamais. Et tout de suite, moi, j'ai compris qu'avec le football, la boxe, il y aurait forcément un engouement. Et le cinéma est venu ensuite. Et Canal+, on ne le dira jamais assez, c'est la chaîne du cinéma, c'est ce qui permet à des films d'être produits, et ça, on le doit aussi à Pierre Lescure.
Pierre ?
Non, mais on peut se tutoyer comme on fait dans la vie, François, ouais. Mais quand tu évoques les difficultés de Canal au début et ceux qui n'y croyaient pas, je me souviens de notre ami commun, Claude Sérillon, qui présentait le 20h, le 4 novembre 84, il arousselait en direct, en duplex.
Le grand patron de Canal à l'époque.
Le fondateur et le grand patron. Et après quelques questions, Claude écarte les bras et dit « Mais enfin André Rousselet, vous savez bien que ça ne marchera pas.
» François Hollande, est-ce que c'est sur Canal+, que vous avez fait votre première télé en tant qu'invité sur un plateau ou pas ?
Non, c'était sur... Je me souviens, première télévision, c'était sur la France 3.
Ah, on allait y venir. Je vous le confirme, François Hollande, votre première télé en tant qu'invité principal, effectivement, c'était sur FR3 Corrèze en février 86. Et vous savez quoi ? Bonne nouvelle, on l'a retrouvée cette émission, au générique très très funky.
Bonsoir, nous recevons ce soir Monsieur François Hollande, vous présentez sur la liste des législatives. Qu'est-ce qui peut faire courir un candidat socialiste en Haute-Corrèze où Jacques Chirac est très très implanté ?
Mais vous savez, il y a une maxime qui dit il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Et moi je suis en Haute-Corrèze pour représenter ce parti, ses idées, auprès de tous ceux qui habitent cette terre qui n'est la propriété de personne, pas plus de Jacques Chirac que d'aucun autre.
31 ans et déjà le sens de la formule. Est-ce que ça vous a servi par la suite, François Hollande, lorsque vous avez fait des émissions de Canal+, qui n'étaient pas des émissions comme les autres pour les politiques ? la prise de risque était plus grande quand même.
Mais quand on fait François Limousin, on peut tout faire. Et heureusement que vous êtes une radio et qu'on n'a pas vu les images, parce que vous auriez compris que même avec cette image-là, j'étais capable d'être invité ensuite à Canal+. Oui, c'était des émissions, lorsqu'on y était invité, qui étaient compliquées, parce que c'était ni variété, ni sérieux, ni information. Et il fallait être suffisamment drôle, ou enfin le sens de l'humour pour... faire passer un message, parce que faire rire, ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas un esprit, s'il n'y a pas une idée qui passe, s'il n'y a pas une volonté de convaincre. Donc voilà pourquoi je trouvais que aller sur Canal+, ça permettait de toucher des jeunes notamment, mais pas simplement des jeunes, qui ne regardaient jamais une autre télévision.
Vous parliez d'esprit, justement.
Oui, ça a été pour moi, je crois... une façon de me faire connaître différemment.
François Hollande, moi aussi, ça me fait drôle de vous parler en direct, vu que je suis avec Laurent Gérard tous les matins.
Ne lui dites pas ça, il va raccrocher à la seconde.
Vous remercierez Laurent Gérard parce que je l'imite très bien.
Ce sera fait. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Dominique Farrugia quand il dit qu'en fait, il n'y avait pas d'esprit Canal, mais en réalité, un esprit de Lescure, je le cite, intelligent et subversif?
Oui, alors c'est beaucoup d'honneur pour Pierre Lescure, je confirme qu'il est intelligent, mais ça ne suffit pas l'intelligence, il faut avoir cette curiosité, c'est-à-dire essayer d'obtenir des invités, que ce soit des artistes, des politiques ou des sportifs, ce qu'ils n'ont jamais encore montré. Et c'était d'aller chercher ce que toutes les télévisions jusqu'à présent n'avaient jamais révélé. Et c'est vrai que c'était un esprit Canal qui faisait qu'on avait le sentiment qu'on appartenait à... un club qui était non pas réservé à quelques-uns, mais qui était celui où il y avait une autre actualité, une autre information, une autre culture qui nous était montrée. Donc oui, il y avait un esprit. Je crois que cet esprit-là est un peu épuisé aujourd'hui, mais il faut le recréer.
Vous avez le sentiment que la télévision s'est assagie, voire un peu affadie par rapport à ces années Canal, justement ?
Non, elle s'est éclatée, la télévision. C'est-à-dire qu'il y a trop d'émissions, trop de chaînes, trop d'animateurs, trop de différenciation pour simplement exister. Il fallait des émissions phares. Le Grand Journal, c'était une émission phare. Donc, il fallait qu'il y ait ça. Il faut des grands rendez-vous. Il faut qu'on sente qu'à un moment, il va se passer quelque chose d'inattendu, et c'est là que ça va se passer.
Vous aimiez tout sur Canal+, même les guignols, qui n'ont pas toujours été tendres avec vous, François Hollande ?
Mais il n'y a pas que les guignols qui n'ont pas été tendres avec moi. vous voyez, c'est une tendance. Mais je pense que les guignols ont joué un rôle beaucoup plus grand que ce qu'on avait pu imaginer. Jacques Chirac en a été à la fois la victime puis après le bénéficiaire, mais c'était aussi un talent qui a été porté par des personnes très différentes et qui a aussi a élevé le niveau de la politique, parce que Canal, les guignols, ce n'est pas simplement de la dérision. La dérision, c'est très facile. Il faut, c'est là aussi, essayer de faire passer des valeurs, des principes. Il y avait ça chez les guignols. Et j'ai profondément regretté leur disparition.
Vous pensiez quoi de votre marionnette à l'époque ? Vous la trouviez drôle, cruelle ?
Elle n'était pas particulièrement à mon avantage. Et je me disais, je mérite mieux. Mais il y a des gens qui pensaient que la marionnette, c'était moi. C'est ça qui est très, très désolant, si vous voulez, dans la vie.
Il y a eu ce quiproquo.
J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit au guignol de l'information. Mais j'ai dit, mais vous avez bien compris que ce n'était pas moi.
C'est magnifique.
Vous regardez quoi la télévision aujourd'hui, François Hollande ? Puisque vous avez été le président normal, vous êtes un homme normal, vous regardez la télévision comme tout le monde. Que regardez-vous ? Vous aimez toujours The Voice, par exemple ? Je crois que c'était le cas.
Non, là, j'ai perdu un peu la main ou la voix. Non, je regarde tout. Je regarde les journaux télévisés. C'était notamment le cas pendant la période du confinement. Je regarde peut-être à vous parce qu'il y a Pierre Lescure de temps en temps qui y est. Mais je regarde tout parce que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement ce que je vois, c'est ce que les Français voient. C'est ça qui quelquefois me guide. Je regarde aussi quotidien. J'essaye de m'intéresser à ce que je crois être les émissions qui, à un moment, portent une idée ou un esprit. Par ailleurs, je regarde beaucoup le sport à la télévision. Et c'est un problème quand on aime le sport comme je l'aime. Avant, je m'abonnais à Canal+, c'était quand même facile. Maintenant, je m'abonnais à combien de d'opérateurs.
C'est plus coûteux.
Je sais même plus ce qu'il faut faire pour regarder les matchs du championnat. Et ça, c'est un problème aussi.
Et les chaînes info qui spéculent sans cesse sur votre retour en politique ?
Je ne spécule pas sur les chaînes info.
Elles spéculent sur vous.
Mais je vais vous dire une chose. Moi, je ne le dis pas parce que je suis ici sur une radio. J'aime la radio. J'aime la radio, il n'y a pas d'image. J'aime la radio, la vraie radio. Et Pierre Lescure peut comprendre qu'il a été aussi un journaliste de radio les grands événements, souvent on les a suivis à la radio. Donc le matin, j'écoute la radio. Et pour l'information, pour moi, la radio est essentielle.
Merci beaucoup François Hollande d'avoir été avec nous pour ce bel hommage à Pierre Lescure.
Et nous serions François.
Ravis de vous recevoir dans l'émission. Merci.
Merci à vous.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dutélé.
Merci beaucoup, l'info revient à 12h30 sur RTL. Mais dans l'immédiat, on va retrouver Pierre Lescure pour la suite des collecteurs dont refait la télé.
Pierre Lescure, l'un des papas de Canal+, on avait retracé avec lui cette incroyable histoire. Et puis, il nous avait également emmené dans les coulisses de C'est à vous, l'émission de France 5, où on le retrouve tous les soirs. Mm-hmm. Alors, ce qui est bien avec Pierre Lescure, c'est que contrairement à Canal+, on n'a pas besoin de décodeur pour le décrypter. Hein. Il est extrêmement cash.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Dans C'est à vous, les invités sont toujours hyper détendus à l'antenne. Est-ce que c'est la même chose en coulisses, où il y a parfois des exigences, des caprices?
C'est sûr que le sourire affiché par certains invités, leur bienveillance, etc.
Cool, hein, ouais.
Et de temps en temps, un peu rajouté, un peu dopé, quand ils sont à l'antenne, alors qu'ils peuvent être chieurs un peu avant.
Ouais, ça arrive parfois.
Ah oui, mais chez vous, ça arrive pas?
Non, jamais.
Tu parles.
Parce que nous, on reçoit que les meilleurs.
Ouais. Nous, on reçoit que des biens.
Monsieur le président du Festival de Cannes, la palme de l'invité le plus pénible en 6-7 ans, là, C'est à vous. Un international, un français?
Non. Le plus pénible, mais il a plein de circonstances atténuantes. Le personnage le plus dingo que j'ai connu dans ma vie, c'est le fils de McCartney, James. Il est arrivé avec un bonnet, alors que c'était pas l'hiver, mais pourquoi pas. Il s'est assis, il avait les paupières tombées, il ne m'a pas regardé de l'interview, pas plus moi que quiconque autour de la table. J'ai dû parler 6-7 minutes avec lui, il répondait yes, no,
c'est long,
I don't think so. C'était d'accord. Tout. Et puis à la fin, il a levé l'œil, il m'a dit thanks, good job. Et le mec, mais je le raconte parce que j'avais jamais connu ça de ma vie, et je pense qu'il a un vrai problème à s'assumer comme fils de McCartney, donc il a un vrai problème de communication avec les autres.
Un peu écrasé par le poids de son père.
Promo.
Oui, légèrement.
Alors son disque est bien.
Mais la promo, justement, Pierre Lescure. Avouez-le parfois, Pierre, dans C'est à vous, ça vous arrive de dire du bien d'une pièce, d'un film ou d'un livre que vous n'avez pas particulièrement apprécié parce que c'est le jeu et juste par politesse pour les invités?
Totalement. Je le reconnais et je le revendique. On n'a jamais fait la promo d'un truc qu'on n'avait pas aimé du tout. On a déjà déprogrammé.
Ah, c'est arrivé, ça?
Ah oui, c'est arrivé. Oui, parce que on peut pas inciter les gens à aller voir un truc où ils vont nous en vouloir. On peut pas leur mentir.
On refait la télé sur RTL. On refait l'invité.
Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+.
Et là, on découvre pour la première fois la fameuse ellipse de Canal+. Début évidemment d'une grande aventure pour vous, Pierre Lescure. Sauf qu'elle aurait pu ne jamais avoir lieu pour vous, cette aventure, parce que vous avez une drôle d'exigence quand vous rencontrez André Rousselet, patron. Vous lui dites quoi? Je suis OK, mais à une condition.
Vous me laisserez glander.
Mais c'est important, ça.
C'est pas commun.
Écoutez, c'était une formule un peu leste, un peu presque argotique. Je le connaissais pas encore bien, c'est la première fois que je le rencontrais. Mais j'avais topé tout de suite. Et il m'avait dit, bon, il y a des choses à prévoir dans votre contrat. Je dis, oui, il faudra me laisser glander. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Mais je lui ai dit, vous aurez toujours un téléphone où me joindre. Mais dans la journée, à certains moments, il faudra me laisser aller me balader. Parce que sinon, si vous restez tout le temps au bureau, bah, vous n'avez plus la même curiosité, vous vous nourrissez plus.
C'est ça, il s'agissait de prendre l'air du temps pour être en phase avec les goûts des téléspectateurs.
Exactement. Donc aller au cinéma, aller écouter de la musique, aller acheter des disques et des machins, aller se promener, aller voir une expo ou aller voir des potes.
Une bonne excuse de glandeur.
C'est
vraiment le plus fort.
Alors ce lancement de Canal+, pour vous, c'est un rêve éveillé, Pierre Lescure. On vous donne carte blanche pour créer tous les programmes.
Il y a tout à faire là, en fait.
Ben, si vous voulez, c'est la chance que j'ai envie de souhaiter à tout le monde, vous, tous ceux, toutes celles qui nous écoutent, pour quoi que ce soit dans la vie, une page blanche. Quand on te dit, il va falloir faire un truc neuf, et qui à l'époque, aujourd'hui c'est banal, mais à l'époque, c'est la première fois qu'on va faire payer la télé. À l'époque, il y avait la redevance, mais il n'y avait pas de programme payant. Donc, c'est révolutionnaire de dire aux gens, vous allez payer. Il faut vraiment le justifier. Donc, il fallait être le plus libre possible pour aller dans toutes les directions possibles.
Alors, au fil des ans, Canal ne va cesser de grandir. Et vous aussi, Pierre Lescure, vous en devenez le président après le départ d'André Rousselet et carrément co-directeur du groupe mondial Vivendi Universal avec l'arrivée de Jean-Marie Messier.
Là, on est bien loin de la petite structure familiale des débuts. À cette époque-là, vous étiez encore heureux ou tout ceci était devenu trop gros pour vous, Pierre Lescure ?
Disons que le bonheur n'était plus mon lot quotidien. Il y avait des responsabilités multiples qui étaient extrêmement excitantes parce que je pense que Jean-Marie Messier, avec qui j'ai été en désaccord sur beaucoup de choses, avait une vision qui était la bonne. Il avait la bonne vision lorsqu'en 2000, il a appelé de ses voeux et réussi la fusion entre Universal, Vivendi et Canal+. Après, sur l'exécution, on peut dire beaucoup. Mais ça voulait dire que d'un seul coup, la vie changeait. Moi, quand le petit Lescure dit au grand Rousselet « j'aimerais pouvoir continuer à glander ».
On n'y est plus du tout, là.
Là, on n'y est plus du tout.
C'est des allers-retours sans cesse entre Paris et Los Angeles. On le voit d'ailleurs dans le documentaire, vous êtes dans vos bureaux d'Universal.
C'est impressionnant.
C'est très impressionnant. Ce qui est encore plus, c'est ce que vous faisiez quand une réunion vous ennuyait.
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. J'étais assis à mon bureau et dans ce qu'on appelle la Black Tower, qui est connue à Hollywood, parce que c'est à Universal, c'est là qu'il y a toujours la direction. Donc j'étais au 14e étage de la Black Tower. Et quand quelqu'un m'emmerdait, c'est vrai que je me décalais de 30 cm et j'avais juste dans mon axe les ptérodactyles de l'attraction Jurassic Park qui montaient et qui descendaient, les dinosaures qui se pointaient et le mec pouvait continuer à m'enquiquiner.
Moi, c'était pas grave.
J'étais ailleurs.
Dans le parc d'attractions. Voilà, en train de vivre un bon moment, loin de tout ça. Là, on peut le dire à ce moment-là, vous êtes, Pierre Lescure, sur le toit du monde de l'audiovisuel, dans tous les sens du terme, au 14e étage, là, à Hollywood. Mais ce toit, vous allez en tomber le 16 avril 2002.
Branle-bas de combat à Canal+, après la décision de Jean-Marie Messier. Le PDG de Vivendi a annoncé brutalement qu'il limogeait Pierre Lescure, qui dirigeait Canal, fronde des salariés de la chaîne cryptée qui ont manifesté leur colère en direct à l'antenne. Véronique Auger.
Sous les caméras, Pierre Lescure rejoint son équipe et se met à critiquer son propre patron, celui qui l'a limogé, Jean-Marie Messier.
Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moi.
18 ans après, vous lui en voulez encore ou pas, Jean-Marie Messier ?
Oh non, heureusement, faut pas vivre là-dessus. D'abord, j'ai dit ce que je pensais à la fois de la justesse de ses vues, et puis, qu'est-ce que vous voulez, j'ai été viré le 16 avril, il a été viré le 2 juillet, et le 2 juillet, c'est mon anniversaire, donc c'était bien.
Joli cadeau, cette année-là. Vous avez mis combien de temps à pouvoir de nouveau regarder Canal+, après cette éviction ?
Oh, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, parce que d'abord, vous savez, mes successeurs, dans un premier temps, ont fait des tas de trucs extraordinaires, puis je voulais justifier mon abonnement. Donc je consommais, bien. Mon gars.
Aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on a fait Vincent Bolloré de ce Canal+, vous reconnaissez encore votre bébé ou pas, Pierre Lescure ?
Non, mais en même temps, franchement, ils ont changé. Je trouve que l'évolution... J'ai eu peur pendant un ou deux ans. Il y avait plus de suppression que de création. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même métier. Il y a à la fois Canal qui reste une attraction et une chaîne qui justifie l'abonnement. Et en même temps, ils ont fait un bouquet de distribution par tous les accords qu'ils ont passés, aussi bien avec Netflix qu'avec maintenant Téléfoot et tant d'autres, que franchement... vous avez dans l'univers Canal un énorme magasin où vous avez accès à de multiples choses.
Vous diriez la même chose s'agissant du Clair ? On est très loin de la puissance et...
Ah ben le Clair n'a plus grand-chose à voir et ça n'a plus du tout la même fonction. Je pense qu'ils font une erreur, mais c'est leur problème.
La suppression des guignols, il y a deux ans, vous l'avez comprise ou pas ?
Je ne l'ai pas comprise et on voit bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe que si on avait eu pendant le confinement un rendez-vous tous les soirs avec les guignols, ça aurait... gonfler un peu l'humeur. C'est une connerie de les avoir arrêtés. Il n'y avait aucune raison objective, sinon l'humeur du patron.
D'autres émissions emblématiques ont disparu, c'est ça qui a marqué la fin du Clair ? Il aurait fallu continuer, d'après vous, ces grandes marques, qui étaient par exemple le Grand Journal ?
Moi, je pense que j'aurais continué, mais c'est leur problème, c'est leur responsabilité d'avoir changé. Simplement, puisqu'on continue en Clair, il faut essayer de faire quelque chose qui justifie que ce soit en Clair. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce qui justifie que ce soit en clair.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussipan.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette.
Ça, c'est la version dépressive du titre en fait de Denis Briand. Ça va pas bien ?
C'est une transition, monsieur. J'amène l'invité suivant. Ah. J'avais pas envie de chanter gna gna gna. Ah. C'est Dany Briand.
Ah, bon, c'était pas brillant. Mmh. Hein. Dany Briand. Un chanteur indémodable, Dany Briand, car il a jamais été à la mode. C'est l'une de ses forces. On va jouer avec lui à Archive ou Archifaux, mais d'abord, on va le retrouver en duo à la télé avec l'une des plus belles voix du monde. Après vous, Jade, naturellement.
Merci.
Je vais bien sûr parler de Céline Dion.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Il est où, Dany? Il est parti? Je voulais le faire chanter Volare.
Avec la marraine de la 7e promo, mademoiselle Céline Dion. Allez,
quand Dany Briand, notre invité, improvise un duo avec Céline Dion à la Star Academy, ça c'est un grand moment de télé.
Je ne connais pas les paroles, donc
c'est ça fait pas de boue à
tout. Mais ça sort très bien. Jazz.
Ouais, Céline Dion, non,
c'est
quoi.
Super. Vous aviez fait la première partie de ses concerts au Stade de France en 1999.
Ah, moi, Céline Dion, c'est ma marraine dans le métier. Hein. Elle m'a vraiment aidé parce que moi, quand je faisais des concerts, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde dans les salles au tout début, j'en avais pas confiance. Et elle m'a offert la première partie de ses spectacles.
Quand passe des cabarets, quoi, 50 personnes voilà. à 80 000 au Stade de
c'est
France,
ça
va faire bizarre. Hein, quand
ça
même.
Fait bizarre. Ouais. Il faut rester concentré sur une personne ou deux, trois personnes. Il faut chanter pour deux, trois personnes, toujours. Même à la télé, quand vous chantez dans la caméra, il faut chanter pour une personne. Il ne faut jamais penser qu'il y ait des millions et tout ça, sinon vous êtes envahi par le trac, la panique.
Et parfois, il n'y a vraiment qu'une de personnes devant
la télé. Des fois, ça dépend de l'audience.
La Star Academy qu'on vient d'entendre, il y a aujourd'hui The Voice. Vous les regardez, ces télécrochets, en tant que professionnel, vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est une vraie chance pour les jeunes artistes ou que ça peut être un faux ami parce que tout va très vite finalement pour eux?
Oui, c'est-à-dire qu'on a accéléré, on n'a plus le temps de se tromper aujourd'hui. Bon, si on parle d'Aznavour, on me disait toujours que sa chance, en fait, c'est qu'on avait le temps de se tromper, d'avoir des bides. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir des bides, en fait. Il faut que ça marche tout de suite. C'est ça le seul danger.
Quand vous voyez l'emballement médiatique autour de certains artistes qui débutent, vous dites quoi? J'aurais aimé vivre ça, moi aussi?
Non, je dis c'est dangereux. C'est dangereux. On ne devient pas PDG d'une société à 22 ans, 23 ans. On commence, on monte les échelons. Et la chanson, c'est pareil, c'est un vrai métier. Et donc, les vrais métiers, il y a des progressions, il y a des stades, et on ne peut pas arriver tout de suite vedette, idole. C'est très dangereux.
Archive ou Archifaux?
Alors, des affirmations sur vous, Dany Briand, des choses que vous auriez vécues à la télévision. Si vous pensez vous souvenir que ça a réellement existé, vous nous dites archive, sinon vous nous dites Archifaux.
Un jour, l'une de vos fans a surgi sur un plateau télé pour vous offrir un jambon de Bayonne. Archive ou Archifaux?
Ah, ça c'est un joke, ça c'est avec Elie Semoun, ça.
Voilà.
Ça a mis vrai mi-faux, ouais.
C'est Micheline, votre plus grande fan, interprétée bien sûr par Elie Semoun.
Bonjour, c'est Micheline, chère Dany Briand.
C'est moi.
Il était permis de déposer sur la scène de l'Olympia ce magnifique jambon de Bayonne de plus de 30 kilos. Avez-vous reçu une photo à ne pas mettre entre toutes les mains?
Oh, monsieur Briand!
C'est vous, Micheline? Écoutez, il faut arrêter de m'écrire et m'attendre en bas chez moi. Faites peur à mes enfants.
Alors, Micheline, elle n'existe pas.
C'est génial.
Mais en revanche, Dany Briand, est-ce qu'il y a de vrais fans, des vrais, cette fois-ci, qui vous ont déjà fait peur?
Au début, ouais, je recevais des billets de train, des photos un peu spéciales. Bon, voilà, c'est au début. Au début, j'étais très jeune, mais après, ça s'est calmé.
Les billets de train, c'était pour partir en vacances avec elle, évidemment.
C'était pour y aller.
Pour les rejoindre.
Pour rejoindre.
Ah, oui.
Le billet était payé, quoi.
C'est un côté
j'ai
pratique.
Jamais utilisé.
Ah, vous avez jamais utilisé.
Non,
allez, autre archive ou archive.
Il est déjà arrivé qu'un animateur télé vous appelle Dany Briand. Archive ou archive.
Briand. Alors, qu'est-ce qui m'appelle comme ça? C'est pas Franck Dubosc?
Un animateur télé, jamais?
Ah, un animateur télé, je m'en rappelle plus. Parce que peut-être il a peut-être écorché mon nom, non?
Non, c'est archi faux.
C'est faux.
Faux.
Ouais.
Briand, on le rappelle, c'est votre nom de scène. Vous le devez au patron de l'un de vos premiers cabarets, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça a commencé comme un joke. Donc, il me disait toujours, ce soir, ça va être dur, soit Briand. Voilà.
Soit Briand. Est-ce que c'est ce que vous dites aussi avant de faire une émission de télé, Dany Briand? Est-ce que ça vous met la pression d'aller faire des émissions de télé en tant qu'invité dans des talk shows?
Alors au début oui, parce que je suis quelqu'un d'assez timide et autant chanter ça allait, mais quand je faisais des interviews, c'est vrai que j'étais en panique parce que je me demandais est-ce que ça va intéresser les gens ce que je raconte. En plus ma mère me regardait, hein, mais elle me regarde toujours, mais ça y est maintenant elle a pris confiance. Donc, mais je lui disais qu'est-ce qu'elle va penser ma mère si je dis ça, tout ça. Donc j'étais un peu bloqué. Et puis après ça, avec l'expérience, je me suis lâché.
Et vous avez le goût du risque, hein. Je vous ai vu dans plein d'émissions où les invités sont mis sur le grill. Je pense à Ardisson dans les années 90, ouais, 2000, ouais, vous faisiez déjà
après,
Ardisson.
Après, je me suis lancé. Hein. J'avais fait un Nulle part ailleurs en 92 où là, je m'étais fait déchirer. Je venais d'arriver, j'ai eu mon premier succès et je m'étais fait fracasser. Ça m'a fait souffrir, hein, pendant quelques mois. Hein.
Là, quand on sort du plateau, du coup, on fait
ouais,
quoi
ouais, j'étais pas bien.
Pas bien.
Après, les gens disant ah, t'as vu, ils t'ont massacré. C'est comme ça. Et ça m'a fait du mal, ça. Pendant quelques années, ça m'a fait une petite appréhension.
C'était des sketchs en fait qui avaient été faits en plateau sur vous, qui
des
vous
charriaient, ouais. des trucs, ils ont diminué ce que je faisais. Bon bah, vous voyez, maintenant qu'on le fait, ça me dérange plus aujourd'hui. Je trouve ça au contraire, c'est une reconnaissance. Moi.
Ah, vous êtes armé maintenant.
Ouais,
voilà.
Ça,
le cuir est étané.
Et après, j'ai compris comment ça marchait une interview en fait. Il faut avoir de la répartie, c'est un exercice quand même.
C'est presque un autre métier d'ailleurs.
C'est un autre métier, ouais. Voilà, ouais. Exactement. Vous avez raison, vous mettez le doigt sur un truc, c'est quand on est chanteur, on n'est pas préparé à ce genre de métier d'interview et tout ça, de communication en fait. On est un communicant, mais ça s'apprend.
Vous avez pris des cours pour ça ?
Non.
Non,
non, c'est sur le tas, forcément,
ouais.
Prendre des râteaux. Bon, enfin, je suis toujours. On est toujours fragile, hein, on peut se faire démolir un autre jour. Il y a pas, on essaie. Mais il faut faire attention aujourd'hui, parce qu'avant, quand on disait une connerie, c'était pas répété par les réseaux et tout ça. Maintenant, la moindre connerie, je crois que c'est fatal. Parce que ça part à... Mais avant, on pouvait dire des trucs, c'est pas grave, c'était le temps de l'émission.
Ça veut dire que vous faites attention aujourd'hui à ce que vous allez dire sur le plateau d'une émission de télé, par exemple, parce que vous méfiez du petit mot, de la petite phrase.
J'essaye d'éviter les trucs politiques, tout ça, de ne pas me polariser sur des trucs droite-gauche. Parce que là, on ne sait pas comment c'est pris.
Allez, dernier test de mémoire.
Vous avez participé au Roi du Shopping, la version masculine des Reines du Shopping sur M6, archive ou archifaux ?
Oh, c'est faux, ça.
C'est faux.
Ouais, mais vous auriez pu. Parce que votre marque de fabrique, c'est aussi un look impeccable, Dani. Brillant, hein. Costume, chemise blanche, belles chaussures.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est ma conception du spectacle. Moi, j'ai été élevé avec les crooners, avec Sinatra, Dean Martin, tous ces mecs, même Aznavour, hein, qui était très élégant.
Ouais.
Et ces mecs-là m'ont donné un espèce de pic. Quand on se présente devant le public, il faut toujours être bien, même à la radio. Oui.
C'est un respect qu'on doit au public.
Ouais.
Vous avez toujours bonne mine en plus à la télé, Dani Brillant. Je suis pas le seul à le penser. Jacques Martin aussi. Il vous l'avait dit.
Aujourd'hui, c'est l'école des fans de Dani Brillant. On s'y aime bien quand on t'accueille. On a toujours l'impression d'être en vacances. Tu es toujours bronzé, tu as toujours les yeux bleus.
Ah oui, bah c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Hein.
Non, c'est pas du travail parce que moi, je sais quand c'est du maquillage et c'est le teint naturel.
Alors ça, c'est pour du compliment, ça. Je sais que ce n'est pas du maquillage. Il avait l'œil, Jacques Martin. Hein. Ouais, on ne le faisait pas, franchement. L'école des fans.
Ah ouais, c'était sympa. J'ai fait l'école des fans. Hein. Je fais partie de cette génération. Je l'ai vu quand j'étais petit. Oui. J'avais l'âge d'être petit et après je l'ai fait moi-même, c'est drôle.
Bravo pour ce test de mémoire, Dani Brillant. Du coup, on va vous garder. Une toute petite pause. On refait la télé sur RTL. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussat.
D'alcool.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Vous savez, Jade, que Danse avec les stars va revenir à la rentrée.
Ah, ben oui, je sais.
Vous voulez pas qu'on y participe tous les deux ?
Ouh là là là, non, 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 même pas en rêve.
Pourquoi ?
Je vous fais pas confiance.
Pourquoi ?
Vous allez pas me rattraper, je suis sûre. Vous allez m'envoyer dans le décor. Non, je veux bien y aller avec Dani Brillant. Lui, au moins, il sait danser.
Oui, mais vous aviez entendu ce qu'il nous avait dit. Il ne veut pas faire Danse avec les stars.
Bon, bah,
donc, ce sera avec moi.
Bah, je sais pas, je suis mal.
Allez, hop, j'appelle votre mutuelle pour vérifier vos garanties.
Oui.
Et pendant ce temps-là, on écoute le C'est ce qu'on dit sur Dani Brillant. Les rumeurs.
RTL.
On refait la télé.
Le C'est ce qu'on dit.
Le C'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit sur vous dans le monde de la télé, Dani Brillant. Des rumeurs. À vous de nous dire s'il y a un fond de vérité ou alors pas du tout.
Ouais, je vous dirai.
Première rumeur, elle concerne cette émission. Le générique de Danse avec les stars, parce qu'on dit, Dani Brillant, que vous, le roi des danses de salon, vous pourriez participer à la prochaine saison de Danse avec les stars. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des discussions en cours ?
Non, on m'a proposé plusieurs fois, mais je trouve que c'est une émission dure quand même. Hein. Faut être en forme.
Ça avait failli se faire en 2013.
Ouais.
Pourquoi ? Ça n'avait pas eu lieu finalement ?
J'ai eu un petit souci de santé, je pouvais pas. Et là, je sais pas, ça m'a l'air très physique en fait, je sais pas. Et puis ça me bloque aussi pour faire des 10, pour faire des tournées. C'est long, hein. Enfin, si on gagne. Ou alors je vais faire la première, puis je vais me faire jeter exprès.
Autre, c'est ce qu'on dit, autre rumeur.
On dit que vous ne seriez pas sorti indemne du tournage d'un téléfilm pour M6, c'était en 2008. Ça s'appelait Roméo et Juliette.
Ah ouais, oh là là. Oh, il m'est arrivé qu'il y ait des galères.
Alors,
continuez.
On parle de nombreuses blessures. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, il m'est arrivé. Je vais vous dire. Bon, vous savez, quand vous êtes chanteur, on vient vous chercher des fois pour faire des films, des téléfilms. Mais moi, chaque fois, je galère, il m'arrive des trucs. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et ce téléfilm-là, Roméo et Juliette. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Donc je jouais un policier qui avait une double vie, qui était écrivain la nuit et qui écrivait des romans à l'eau de rose. Donc j'étais avec une coéquipière et en fait elle m'a cassé deux dents. En fait, à un moment, elle m'a dit qu'elle voilà, elle s'est rendue compte de ma double vie et elle m'a mis les menottes. Et en fait, les menottes sont arrivées dans ma bouche, je me suis cassé dedans. Bon, après, un jour, elle m'a donné une claque, elle m'a crevé un tympan. Mais vraiment.
Sympa.
Ouais, ouais, et pour un chanteur, c'est dur quand même.
Oui, 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 oui.
Et le pompon, c'est qu'un jour, je courais dans un truc comme ça, je suis tombé et je me suis cassé la jambe. Comment j'en ai eu marre.
Non, mais c'était la fiction maudite.
Non, ouais, ouais, non, c'est-à-dire que j'ai dit, je ne veux plus faire ce
truc. Ah, bah, je comprends.
C'est dans la chanson. Ah, c'est, je vous dis, enfin, le nez, là. Enfin, bon, voilà, j'étais très, très. Voilà, j'ai eu des blessures de partout. Donc, voilà.
Dernière rumeur télé.
Dany Briand, vous aimeriez beaucoup présenter une grande émission de variété, La façon des Carpentiers, c'est ouais. Ce qu'on dit.
Ça j'aime bien, ça me plairait.
Bah voilà.
Des shows de variété parce que nous, ce qu'il y a par rapport aux autres animateurs, c'est qu'on connaît le métier. Et je trouve qu'on ne va pas traiter les chanteurs de la même manière. Quand
vous en avez parlé ça avec les chaînes déjà ?
Il y a peut-être quelque chose qui se prépare là.
Ah ouais, ouais. Donc voilà,
peut-être quelque chose.
C'est le moment de l'émission où je vous dis que vous ne quitterez pas le studio tant que vous ne nous en direz pas plus, Dany Briand.
Ouais.
Et l'idée serait d'avoir un show façon Carpentier comme ça avec des artistes.
Carpentier ou plutôt moi, je verrais Carpentier, ça s'est fait là, Daniel Lombroso l'a fait, je trouve ça très bien fait.
Avec Allez viens, je t'emmène.
Ah ouais, c'est super. Non, faudrait un autre concept, un truc à plus Las Vegas, plus Rat Pack, vous voyez, plus Sinatra, Dean Martin, une bande de copains qui déconnent, qui mélangent l'humour, la chanson, la danse. Qui se chambre, vous voyez, ce que je ne sais pas si vous avez vu des fois les shows des Sinatra à Las Vegas et tout, ça c'est super.
De toute manière, émission musicale ou pas, vous arrivez à chanter partout, Dany Briand, même dans une émission d'Arthur qui rendait hommage au commandant Cousteau. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, parce que c'était les débuts d'Arthur aussi. J'ai dû chanter Oum le Dauphin.
Exactement. Vous avez chanté pour lui le générique de ce dessin animé signé Michel Legrand.
Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir pour vous, commandant Dany Briand, Oum le Dauphin. Allons-y.
Quand surgit Oum le Dauphin. De l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Il a le poisson comme l'hermine des contes qui s'illuminent jusqu'au fond.
Dany, vous pouvez définitivement tout chanter. Hein. On est bien d'accord.
Disons, ma voix,
c'est bien
changé,
ça. Hein.
Heureusement. Parce
c'était
que,
bien là. Hein.
Ah, vous n'étiez pas content de ce que vous avez entendu. Hein.
Non, mais c'est très aigu. Mais moi, c'est normal. C'est la voix. J'ai mué un peu.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais, enfin, mais je peux chanter les Oum le Dauphin. Ouais.
Oui, bah, oui.
On va vous le demander en concert. Attention, faites gaffe.
Du Michel Legrand, du Charles Aznavour et même du Gilbert Bécaud. On a retrouvé un très joli moment de télé. Bah oui, c'est normal. Avec vous deux, un duo dans Sacré Soirée.
J'ai vu les images, on sentait une vraie complicité entre vous. Hein. Vous étiez sur la même énergie que Monsieur 100 000 volts. Hein.
Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est ça, cette variété-là que j'aime, qui a disparu. Et Gilbert Bécaud, c'est aussi un grand, grand monsieur de la chanson.
Peu d'hommages lui ont été rendus.
Peu d'hommages ont été rendus, mais j'espère que ça... De toute façon, on va redécouvrir tout ça. Comme c'est des classiques, c'est comme Molière, c'est comme Jacques Prévert. Ça revient, c'est cyclique en fait. À un moment, ça reviendra, Gilbert Bécaud.
Vous pourriez être de ceux qui lui rendraient hommage, justement ?
Ouais, bah justement, dans le show là, dont vous suggériez, peut-être on lui rendrait hommage. Ouais.
Pas falloir abat-joie, mais c'est déjà fini pour aujourd'hui.
Eh oui.
Bon, Jade, on va pouvoir retourner sur la terrasse privée du patron. Elle est pas mal, hein ?
Oui.
Il aurait dû penser à
elle
fermer son bureau avant de partir en France.
Ah bah hein, oui, tant pis pour lui.
D'ailleurs, je me demandais pourquoi il y a de moins en moins de déco dans son bureau depuis le début de l'été ?
Eh bah ben parce que je vends tout à Sophie Davant dans Affaires conclues. Ça finance mes prochaines vacances.
Ah, il va adorer, hein.
Ça va se débrouiller.
Ah, vous savez quoi, chérie, vos vacances vont être beaucoup plus longues que prévu, hein. Bon, en attendant, on se retrouve, là, je suis sûr que vous serez là, samedi prochain à 11h30.
Oui, avec d'autres collectors, ceux d'Élise Lucet, Philippe Etchebest et Benabar. Bon week-end à vous tous. Tout de suite, RTL Midi.
Ciao, ciao.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussy.